France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, question sur le grand débat national promis par Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise des Gilets jaunes. Une initiative totalement inédite à cette échelle qui pose bien des questions sur le fond et sur la forme. Sur le fond, certains s'interrogent sur les intentions réelles de l'exécutif et se demandent s'il ne s'agit pas d'une opération de diversion. D'ailleurs, si on en croit un sondage Harris Interactive publié cette semaine, moins de la moitié des Français pensent qu'on tiendra compte de leur avis. Sur la forme aussi, bien des interrogations sur ce grand débat. Quoi ressemblera-t-il ? S'agira-t-il de réunions ? Et si oui, à quel endroit ? Qui pour les organiser au-delà de son pilotage par la commission du débat public ? Et quid de l'outil Internet qui a permis aux Gilets jaunes de s'organiser ? Va-t-il aussi permettre de consulter les Français ? Bref, comment tout cela va-t-il s'imbriquer, sachant qu'il y a en plus d'autres initiatives, comme par exemple celle du Conseil économique, social et environnemental, on le voit. Ce soir, les questions ne manquent pas et vous êtes d'ailleurs très nombreux au standard du téléphone sonne. Pour vous répondre ce soir à nos côtés, Chantal Jouanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, est chargée de piloter ce grand débat national. Elle est restée avec nous. Bonsoir Chantal Jouanneau. John Billard, vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes là car bon nombre de maires ont, sans attendre, ouvert des cahiers de doléances à leurs administrés. À nos côtés également, Cyril Graziani du service politique de France Inter. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Tous vos appels au 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Cécile nous appelle de Vendée. C'est elle qui ouvre ce téléphone sonne ce soir. Bonsoir Cécile.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Donc ma question, elle est toute simple. En fait, moi, je me porte volontaire pour le débat. Et comment ça se passe? J'avais cru entendre parler d'un tirage au sort. Donc est-ce que c'est comme ça ou il y a des volontaires?
On va vous répondre Cécile, mais dites-nous d'abord pourquoi vous vous portez volontaire? C'est quelque chose qui vous intéresse?
Oui. J'aime participer aux choses. Je suis dans le milieu associatif et puis j'ai changé de... Je suis une infirmière. De diplômée. Et il y a 7 mois, j'ai changé de profession parce que je ne m'y retrouvais plus, en fait, dans le milieu hospitalier. Et du coup, j'ai plein de choses à dire au niveau profession médicale.
C'est pas forcément la crise des Gilets jaunes qui vous a interpellée ?
Si, aussi, mais je pense que les Gilets jaunes, après, ils ont tous leur demande. Et non, c'est pas forcément dans ce sujet-là.
En tout cas, ça vous intéresse et vous avez envie de participer. Alors, on va vous répondre, Cécile. On va demander à Chantal Jouanneau, peut-être pour commencer, comment Cécile peut-elle le faire pour participer? Elle est volontaire.
D'abord, merci à Cécile de son engagement pour effectivement ce grand débat. Alors, il y aura plusieurs possibilités. Et tout ça à compter du 15 janvier, outre évidemment les possibilités de verser sa contribution dans les cahiers de doléances actuellement dans les mairies. La première possibilité, c'est d'être elle-même une organisatrice de réunions. Et pour ça, il y aura un site internet qui s'appellera granddebat.fr sur lequel on pourra trouver toutes les informations, s'inscrire, avoir un kit de méthode pour comment animer une réunion, comment l'organiser. C'est vraiment des conseils très très pratiques. Et ensuite, comment faire le compte-rendu et nous renvoyer ces éléments pour que nous, ensuite, on puisse faire une synthèse. Elle peut faire cette réunion, Cécile, donc soit dans sa commune, sa ville, je ne sais pas où elle habite, ou effectivement dans son milieu hospitalier, qui est quand même effectivement aussi des éléments apportés à la connaissance du gouvernement. La deuxième possibilité, c'est de contribuer directement sur la future plateforme numérique. Il y aura effectivement du tirage au sort dans des assemblées qui pourront débattre de propositions aussi assez concrètes, mais ce sera dans un deuxième temps. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont toutes ces réunions qui peuvent s'organiser au plus près du terrain, au plus près en fait des habitants, au plus près des personnes, et c'est là où on permettra au plus grand nombre de s'exprimer, à ces personnes qui vont pas venir dans des réunions qui vont se faire en préfecture, on n'en fera pas d'ailleurs, qui viendraient jamais dans des grandes salles, mais qui préfèrent s'exprimer chez elles.
John Billard, vous êtes vice-président de l'Association des maires ruraux de France, maire d'une petite commune d'Eure-et-Loire, si je ne m'abuse. Est-ce que vous sentez un enthousiasme comme celui qu'on vient d'entendre dans la voix de Cécile il y a quelques instants?
Je pense qu'il y a un enthousiasme, dont on l'a noté avec l'ouverture des cahiers de doléances dans les mairies, mais c'était des démarches individuelles. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'orienter sur des démarches collectives. Et c'est pour ça que nous avons proposé, pour les communes qui le souhaitent évidemment, d'ouvrir nos salles polyvalentes. Par exemple, pour l'auditrice, on pourrait imaginer qu'elle puisse organiser une réunion sur le sujet dans sa commune. Mais ça, c'est à la charge de chaque élu de choisir s'il le met à disposition ou pas. Ça, c'est un choix qui est individuel. Mais c'est la grande différence, en fait, entre le cahier d'oléances, qui est une démarche individuelle, et la consultation qui peut être collective.
On repart au standard du téléphone sonne. Nance nous appelle de la Côte-Saint-André, c'est dans l'Isère. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Donc, merci de me donner la parole. J'appelle pour plusieurs questions. Les premières sont en rapport avec l'organisation. Donc, comment centraliser les doléances alors qu'il y a 36 000 communes? Quel sera le contrôle citoyen? Et j'insiste sur le mot contrôle, sur ce qui va remonter. Les cahiers seront-ils publiés sur Internet, par exemple? Et enfin, contrairement à ce qui est affirmé dans les médias, la question européenne est au cœur des préoccupations de beaucoup de gilets jaunes. Donc, s'il y a une demande massive pour un référendum pour le Frexit, est-ce que celui-ci sera organisé? Merci
beaucoup, Nance, pour toutes ces questions, à la fois sur leur organisation et puis sur ce qu'il en sortira. Chantal Joanneau, on commence peut-être par là.
D'accord. Merci pour cette question. Mais c'est bien de rentrer dans le concret, donc ça, je trouve ça formidable. Sur la partie, alors je ne me prononcerai pas sur la partie de centralisation des cahiers de doléances, mais sur cette partie très importante de ce que monsieur évoquait, le contrôle citoyen. C'est-à-dire la garantie qu'il n'y aura pas de filtrage, qu'on ne va pas mettre de côté ce qui dérange, parce que c'est effectivement parfois la tendance. Nous, quand on fait du débat public, on est une autorité indépendante. Chez moi, il y a des personnes qui sont extrêmement vigilantes sur ce point. Et justement, notre rôle, c'est d'offrir toutes ces garanties, que toutes les paroles seront bien entendues, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas. Et donc,
Les gens se prononcent pour un Frexit. Ben,
si les personnes se prononcent pour un référendum et pour un Frexit, nous remonterons dans les propositions qui ont été faites cette proposition. Par contre, ensuite, sur est-ce que ce référendum aura lieu, ça c'est le choix du gouvernement sur lequel je ne peux pas me prononcer.
Voilà. John Billard, sur le contrôle citoyen, on sent, on va pas dire une certaine défiance, mais en tout cas une certaine méfiance de la part des citoyens sur cette consultation qui est en train de se mettre en place. Comment ça va se passer sur ces cahiers de doléances? Est-ce qu'il pourrait y avoir un droit de regard
De toute façon, les cahiers de doléances, enfin, ce qui a été exprimé, sera mis sur le site de la CNDP. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris. Il sera d'abord transmis au président de la République, au Premier ministre et au président des deux chambres. Donc il y a une transparence totale de ce qui a été dit. Ça, on s'est engagé. Ensuite, sur l'organisation et ce qui est dit, nous, les maires ruraux, en tout cas, on ne prend pas parti, on n'est pas les représentants du gouvernement. Ce que l'on veut, c'est que l'expression républicaine se fasse en proximité. C'est un enjeu important. Donc c'est pour ça que je disais qu'on va organiser ça dans nos mairies. Mais on se mettra au fond de la salle et s'il y a une organisation pour faire remonter et qu'on a besoin d'un maire pour qu'on aide un citoyen qui organise une réunion, on l'accompagnera. Mais on ne portera aucun jugement, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour garantir que chaque citoyen puisse s'exprimer librement dans une assemblée ou individuellement.
Cyril Graziani du service politique de France Inter, on entendait Nance qui posait la question de la suite. Hein. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer à partir des doléances qui seront exprimées? On sait qu'Emmanuel Macron va écrire aux Français dans quelque chose, ce qui va peut-être effectivement donner quelques indications sur la suite des événements, sur ses intentions par rapport à tout ça.
Parce que pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup sur la lettre que Emmanuel Macron va écrire et qui sera publiée par voix de presse et sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris, ce ne sera pas dans les boîtes aux lettres de tous les Français. On a essayé cette semaine de se renseigner pour savoir ce qu'il y avait dans cette lettre et l'Élysée a eu bien du mal à nous expliquer concrètement, peut-être parce que la lettre n'a pas encore été écrite. Ce qu'il faut dire, c'est que Emmanuel Macron compte énormément sur ce grand débat. Il compte énormément déjà sur cette lettre pour expliquer sa démarche et ensuite il veut, pour essayer de sortir du cauchemar de la fin de 2018 et rentrer du bon pied dans 2019, essayer d'expliquer aux Français que ce qui s'est passé en fin d'année, et ben désormais il faut que ça se passe dans des des réunions collégiales. Essayez de faire remonter. Oui, on a entendu qu'il y avait cette colère. Oui, on a entendu que vous aviez des revendications. Donc maintenant, calmement, dans un cadre de débat, bah, essayez de faire remonter tout ce que vous avez à nous dire.
Mais pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura une suite au niveau avec un vote ou quoi que ce soit. Ça, c'est trop tôt pour le dire.
Hier, dans ce studio, il y avait Bruno Le Maire qui, lui, ne s'est pas opposé à un référendum. Il a dit, effectivement, il ne faut pas préjuger de l'issue du débat parce que c'est très facile de dire d'ores et déjà, il y aura un référendum. Or, est-ce que les Français, véritablement, veulent des référendums? Certains le veulent. Peut-être pas la grande majorité, et Bruno Le Maire expliquait que oui, s'il faut donner la parole au peuple, il ne faut pas avoir peur de ce peuple.
On repart comme promis au standard du téléphone sonne. Marie est en ligne. Bonsoir Marie.
Bonsoir France Inter. Alors dites-nous.
Ah bah oui, on est content de vous entendre Marie, mais on ne sait pas d'où vous appelez. Dites-moi tout.
J'appelle de Poitiers.
On vous écoute, Marie.
Alors voilà, j'ai très bien compris qu'il y avait deux modes d'expression des citoyens. Un mode direct par le numérique ou par les cahiers de doléances, que j'appelle le mode direct. Et le deuxième mode qui m'intéresse le plus, c'est sous la forme de réunions collectives, le plus intéressant à mon avis. Mmh. Et apparemment, ce que j'entends jusqu'à la seconde dernière, c'est qu'il y a une certaine improvisation et qu'on délègue ce mode d'organisation collective, on ne sait pas trop à qui, en tout cas pas aux préfectures, mais je vois que c'est le représentant des maires ruraux qui se sent plutôt concerné. C'est très bien. Et alors, voilà mon message. Dans ce mode d'expression, sous forme de réunion collective, il faut absolument des personnes aguerries à la démocratie participative pour gérer ces réunions. Il faut que ces personnes aguerries mettent les gens en confiance, les écoutent, reformulent, fasse des synthèses, dégage les idées forces. Si c'est une improvisation avec, je sais pas moi, un brave bénévole de la mairie locale, ça n'ira pas. Il faut professionnaliser avec des personnes compétentes ces réunions collectives.
Merci Marie pour ces quelques remarques. Chantal Joanneau, c'est vrai que tout le monde ne sait pas organiser un débat.
Alors merci Marie effectivement pour ces remarques. Je vois que Marie en fait connaît déjà le sujet puisqu'elle parle de démocratie participative, ce qui est un mot en soi qui montre qu'elle connaît ce sujet. Sur ces réunions collectives, tout le monde peut organiser une réunion collective. Tout le monde est en capacité de le faire, que ce soit effectivement un maire, un élu, un président d'association, un président de syndicat. Aujourd'hui, on a rencontré les associations caritatives qui ont bien l'intention effectivement d'organiser dans leur réseau des réunions et qui ont des personnes qui sont tout à fait capables de les animer. Nous, on a donné des conseils très pratiques pour ensuite faire effectivement le compte-rendu et restituer. Et ce qui est très important, c'est de ne pas reformuler. C'est un point effectivement que je voulais dire à Marie, on ne reformule pas. Il faut laisser la parole brute telle qu'elle s'exprime, parce que déjà quand on reformule avec ses idées, avec ses mots, et donc on biaise la parole. Le deuxième élément important, c'est qu'il est effectivement des cas où les personnes vont nous dire « moi je peux pas animer à mon niveau, je suis maire d'une commune, je pense que ça va biaiser parce que je suis pas neutre et je risque d'être pris à partie, les gens vont pas vouloir s'exprimer ». Et dans ces conditions, nous on peut mettre effectivement à disposition des animateurs qui sont des experts. Ce sont des garants de la commission nationale qui sont sur une liste nationale qui a été établie il y a bien avant, qui sont formés pour ça et qui savent animer des réunions, notamment quand elles sont un peu plus conflictuels et qui savent le faire et qui savent restituer et donc qui seront les garants de ces différentes réunions.
John Billard.
On a déjà eu un échange sur le sujet. C'est un vrai point très 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 important. Je pense que certains collègues feront médiateur, ce qu'on fait aujourd'hui tous les jours. S'il y a besoin, on peut faire le médiateur d'une réunion. L'important, c'est qu'on prenne pas parti. Mais on peut, pour certains d'entre nous, faire ce qu'on a fait d'ailleurs avec les cahiers de doléances. On était écrivain public parce qu'il y avait des personnes qui oralement nous ont exprimé et on a essayé de retranscrire le plus fidèlement possible à leur place, même si la majorité se sont exprimés eux-mêmes. Je pense qu'on pourra accompagner ça. J'insiste sur le fait que les maires ruraux, les maires en général d'ailleurs, sur cette organisation doivent être des facilitateurs. On est là pour qu'on facilite l'expression publique et qu'on reste neutre, parce qu'effectivement on pourrait se retrouver après mis à partie, et c'est ce qu'on ne veut pas, c'est pas qu'on ne le souhaite pas, mais si on veut justement que ça donne quelque chose de, on va dire, sérieux, il vaut mieux qu'on soit très en retrait.
Et visiblement il y a aussi des maires qui ne souhaitent pas organiser de débat ou pas y participer. Stéphane nous appelle pour nous en parler. Bonsoir Stéphane.
Oui, excusez-moi.
Vous êtes à quel endroit, Stéphane ?
Moi, je suis dans une commune où le maire a dit non, moi, je m'occupe pas de ça, je ne veux pas de débat, pour X raisons. Bref, nous, on est une petite association qui s'intéresse à la vie locale, et etc. Et on souhaite justement, par contre, organiser des débats. Et ma question, elle est très simple. Quelle légitimité on a, nous, à demander, et voire même exiger, des espaces physiques, voire plus prosaïquement des espaces de communication, tout simplement, comment on peut dire, eh bien, nous on a la légitimité pour dire on va laisser un cahier de doléances à la mairie et les gens viendront, alors que le maire a dit non, moi je veux pas de cahier de doléances. Par exemple, voilà, quelle légitimité nous on a alors qu'on veut s'emparer de ce débat au niveau de la Barthe-sur-Lèze.
Que vous seriez pas fâché d'avoir une salle municipale pour organiser votre débat, c'est ça?
Oui, bon, ça sûrement qu'on l'aura, mais il va falloir se battre. Et moi, j'aimerais bien savoir exactement, et c'est pas très clair nulle part, quelle légitimité on a de dire, nous, on veut s'emparer du débat et on a la légitimité pour ça.
Eh ben, Chantal Joanneau et John Billard vont vous répondre. Oui. Lequel veut commencer? Chantal Joanneau.
Stéphane, qui manifestement d'une commune du Sud, enfin je pense.
Dites-nous, Stéphane, d'où exactement?
Oui. Enfin, on va peut-être... La Barthe-sur-Lèze.
D'accord.
Dans la banlieue de Toulouse.
D'accord. D'accord. Vous avez toute la légitimité pour organiser un débat, parce que ce qu'ont exprimé les Gilets jaunes, ce qui s'exprime beaucoup dans ce débat, et que nous on voit d'ailleurs quand on fait d'autres débats publics, c'est parce que vous êtes justement citoyen, que vous avez toute la légitimité pour témoigner de votre situation et faire des propositions. Donc, il n'y a pas d'un côté ceux qui sont légitimes pour faire un débat et ceux qui ne sont pas légitimes de l'autre parce que ils n'auraient pas de responsabilité d'élu ou autre. D'autant plus que vous m'avez indiqué que vous étiez responsable d'une association. Donc, vous étiez dans une association. Donc, la plupart, nous, ce qu'on a entendu avec la plupart des maires, c'est que si certains ne veulent pas nécessairement l'organiser, par contre, ils sont plutôt facilitateurs en général. Donc, je vais peut-être laisser
la parole à John Billard. Qu'est-ce qu'on fait quand le maire n'est pas très chaud comme ça?
Alors, déjà, c'est important, c'est que le maire est légitime à refuser. Hein, on défend la libre administration des communes, c'est chacun fait comme il veut. Moi, ce que je conseillerais à notre auditeur, c'est il peut aller voir la commune d'à côté, qui peut être plus ouverte à prêter sa salle, parce qu'il faut différencier vraiment deux choses, hein. C'est la mise à disposition du matériel, c'est-à-dire la salle, voire des imprimés, et le débat en lui-même. Le maire, enfin certains collègues qui ne souhaitent pas animer, peut-être pensent-ils qu'ils vont devoir avoir à faire quelque chose. Or non, à part mettre à disposition, s'ils le souhaitent, faire le médiateur, mais tout est libre. Enfin, c'est très important. Nous, on n'est pas là pour donner des ordres ou des leçons à nos collègues. Chacun fait comme il le sent, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que l'on fait tous les jours de façon individuelle avec nos habitants, donc on pense que le fait que là que ce soit un peu plus organisé, c'est un moment et une opportunité à saisir. Voilà.
Jean-François nous appelle à son tour du département de l'Essonne, si je ne m'abuse. Bonsoir Jean-François, vous êtes là?
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, ben écoutez, moi c'est très simple, comme l'auditeur avant, je fais partie de l'association. J'ai eu affaire à plusieurs reprises à des responsables politiques, que ce soit des sénateurs, que ce soit des députés. Et cette histoire qui est en train de se mettre en place, j'ai beaucoup, beaucoup de doutes pour qu'elle arrive. Elle sera faite peut-être au niveau du peuple. Le peuple pourra exprimer effectivement probablement ses envies et ses doléances, mais j'ai vraiment un grand, grand doute pour que ça arrive jusqu'à la tête de l'État et que ça soit mis en place.
Merci Jean-François, et vous n'êtes pas tout seul à penser comme ça. Moi, j'ajoute quand même que, précision à apporter qui est arrivée aujourd'hui, hein, que le collectif des Gilets jaunes de la France en colère, lui, rejette ce débat, il le qualifie de piège politique, et sans aller jusque-là, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Chantal Joanneau, on l'a déjà dit, mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les...
Le peuple pourra s'exprimer et nous, mon rôle, le rôle de l'autorité que je préside, c'est de garantir que tout ce qui va être dit va remonter au plus haut niveau et que ce sera fait de manière transparente, neutre, sans tripoter et tritouiller les déclarations des uns et des autres. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui en douteraient à lire les derniers rapports qu'on peut faire où on dit les choses de manière assez cash, y compris au gouvernement. Donc ça va remonter. Ensuite, Ce qui en sera fait, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est vraiment le besoin aujourd'hui, il faut que ce soit clarifié. Je ne doute pas que ce sera écouté, puisque le gouvernement a voulu ce débat. C'est quand même totalement inédit dans l'histoire de notre pays, totalement inédit. Ça va même à l'encontre de toute une tradition politique, et donc ce sera écouté. Et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Mais j'ajoute que ensuite, le fait que certains doutent des institutions, moi j'entends effectivement tout ça. Hein. Je pense que toute parole est légitime, toute position est légitime, et je ne discrédite aucune position, y compris celles et ceux qui disent, moi, le grand débat, je n'y participerai pas pour telle et telle raison.
John Billard, compte tenu de l'état de tension qui règne dans le pays, ne pas tenir compte de ce qui ressortira de cette consultation, ce serait peut-être imprudent, non ?
Ah ben c'est même un danger, je vais oser dire ce terme-là. Quand nous, dans les cahiers de doléances, on voit un petit peu tous les retours, il y a énormément d'attentes. En fait, c'est vraiment des besoins. Donc, il faut qu'il y ait une réponse. Donc, c'est au gouvernement, en responsabilité, d'apporter des réponses. C'est essentiel. Enfin, sinon, on va vraiment vers une catastrophe. Enfin, je pense une catastrophe politique. Mais c'est une vraie occasion. Ce que je voudrais dire, c'est que, à la fois, si les gilets jaunes, que je peux comprendre, hein, par ailleurs, là, pour le coup, tout le monde va pouvoir s'exprimer. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a effectivement les gilets jaunes, mais il y a aussi des associations, il y a des syndicats. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le débat à tout le monde.
Cyril Graziani, ce débat, ça a été quoi au départ ? L'idée de gagner un petit peu de temps, essayer de trouver une solution pour sortir de la crise ?
Non, je ne crois pas. Ce qui est sûr, c'est que politiquement, Emmanuel Macron est obligé d'écouter ce qui ressortira de ce débat, voire même avant de connaître les conclusions du débat, de donner des signaux pour montrer qu'il est réellement à l'écoute. Là, il est sorti de l'année 2018 dans un état catastrophique, sa cote de popularité est au plus bas, et je pense, c'est peut-être que ce ne sera pas ça qui lui permettra de sortir de cette crise, mais en tout cas, si c'est un débat juste pour faire plaisir, juste cosmétique, les Français, et pas seulement les Gilets jaunes, mais les Français dans leur ensemble, ne lui pardonneront pas.
John Billard, le président de la République aurait dû écouter un petit peu plus les maires. En amont.
Ah ça c'est sûr, puisque on avait déjà fait un gros travail aux élections présidentielles avec les quelques associations autour du monde rural, et on avait effectivement soulevé un certain nombre de points. Aujourd'hui, il n'en a pas. Enfin, on sent pas qu'il en ait tenu compte. C'est peut-être pour ça qu'il y a justement cette crainte qui consiste à dire est-ce qu'il va en tenir compte. Moi, je pense qu'il a tout intérêt politiquement à le faire.
Mais c'est terrible d'une certaine façon d'être dans cette situation où aujourd'hui on n'a même pas lancé le débat que déjà on doute de savoir si le débat sera entendu.
Mais c'est classique. C'est parfaitement classique.
Ça se produit régulièrement quand vous organisez des débats.
Vous disiez tout à l'heure, on a fait les 94 gros débats. Et c'est systématiquement la première question qui est posée sur un débat. La question de confiance, c'est comment garantir que le décideur, in fine, va bien en tenir compte et va prendre des décisions et nous dire pourquoi il prend telle et telle décision. Donc dans tous les débats, il y a cette exigence d'un pacte préalable qui dit pourquoi on fait ce débat et comment on en tiendra compte. C'est la question de confiance centrale.
Alors justement, on a une question au standard du téléphone sonne à propos d'un débat qui a déjà eu lieu au niveau local et qui concerne Notre-Dame-des-Landes. Peut-être pouvons-nous prendre l'appel de notre auditeur. Bonsoir, vous êtes là ? Je pense que je ne trouve pas le nom précis de la personne IFIG qui nous appelle de Brest. Est-ce qu'il est là sur ce débat de Notre-Dame-des-Landes ? Non, il n'est pas là. On va prendre Jean qui nous appelle pour tout à fait autre chose. Jean, vous êtes en ligne et vous avez une question sur la fracture numérique, c'est bien ça ?
Voilà, oui. Donc avant tout, je voulais dire que je vais bientôt porter plainte pour France Inter pour addiction à cette très bonne radio.
Je ne sais pas si on va pouvoir vous aider.
Bonne année, bien évidemment. Et oui, alors mon inquiétude, en fait, elle concerne les 7 millions de personnes qui n'ont pas accès au numérique, que ce soit volontaire ou que ce soit pour des raisons diverses, sociales, etc. Et comment ces gens qui sont souvent exclus, et d'ailleurs ce qu'on peut reprocher à tous les médias, justement ce souci de toujours renvoyer à des à des sites et des sites et des sites. Et comment font ces gens-là, en fait? Hier, il y avait un très bon débat, ou dans la journée, je ne sais plus, sur sur la nouvelle organisation des impôts. Et
comme vous écoutez France Inter Nuit et Jour, vous savez plus, c'était hier, aujourd'hui, demain.
Non,
c'était hier soir, le téléphone sonne. Je me moque, Jean. Non, vous avez raison d'écouter France Inter, et votre question, elle est très importante. Oui. Moi, je vais me tourner peut-être vers John Billard, qui est chargé de cette question du numérique à l'Association des maires de France.
Oui, effectivement, c'est une vraie question qui est très importante. Et c'est le combat que je mène pour les maires ruraux, c'est justement de donner accès à tous les services publics, à l'ensemble de la population, y compris ce qu'on appelle les exclus du numérique. Donc là, il y aura plusieurs supports, de ce que j'ai compris, mais ça, Madame Jeannot va peut-être détailler. Il y a plusieurs supports qui sont mis à disposition. L'important, c'est la diversité des supports. Et c'est pour ça que, lors de notre réunion de la semaine dernière, on a évoqué la possibilité d'ouvrir de nos salles. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait les cahiers de doléances. C'était bien pour laisser accès à qui le souhaitait de venir à la mairie. Et même pour ceux qui avaient des difficultés à s'exprimer, on a pris, dans certains cas, la prime pour... C'est-à-dire qu'on prend le relais, comme le fait un maire rural de façon assez régulière, c'est qu'il est aux côtés de ses habitants, et quand ils ne peuvent pas faire une démarche administrative d'un point de vue numérique, ce qui va être plus souvent le cas, il a sa mairie. Je rappelle que la mairie est le principal lieu de service public en France. Il y en a 36 000, un petit peu moins maintenant, et c'est important, justement pour ne pas laisser des exclus sur le bord de la route quand ils ont besoin d'avoir le moindre besoin administratif.
Sur cette question du numérique, Chantal
Jeannot. Oui, merci, parce qu'effectivement, la question de genre, on voit un sujet qui est revenu très 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 souvent dans les différents témoignages, la question de la fracture numérique et de la dématérialisation et des exclusions qu'entraînait cette réalité. Alors, on a une réunion effectivement très efficace avec l'Association des maires ruraux, que je remercie encore, parce que ce sont vraiment des personnes très aidantes dans l'organisation de ce débat, sur la mise à disposition de l'ensemble des outils via les mairies, pour permettre vraiment à tous de s'exprimer. C'est-à-dire que la plateforme numérique, ça n'est qu'un outil, l'essentiel reposant sur l'ensemble de ces réunions qui se réaliseront au niveau le plus local, ce qui renvoie d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu non plus des réunions à l'échelle des préfectures, parce que il y a beaucoup de personnes pour qui c'est très compliqué de se déplacer jusqu'à une préfecture. Il y aura sans doute d'autres dispositifs, mais pour justement permettre à tous de s'exprimer directement, y compris par courrier, mais il est encore un peu tôt pour moi pour en parler.
Alors, on a retrouvé Ifig qui était perdu quelque part à propos de la consultation concernant Notre-Dame-des-Landes. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez.
On vous entend et on vous reçoit 5 sur 5.
D'accord, très bien. Merci de me prendre. Donc, c'était une question, on va dire, assez pragmatique, parce que je fais confiance aux gens du gouvernement pour organiser tout ce qui va être échange et choses et discussions. Par contre, dans le Grand Ouest, on a eu des débats, on va dire, assez houleux au sujet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, avec un vote, on va dire que là, on touche au concret, où on a demandé aux gens du 44 de s'exprimer avec un engagement du président, donc à l'époque François Hollande, et qui, aujourd'hui, a été complètement rejeté et jeté à la poubelle. Donc, on se demande vraiment pourquoi avoir toutes ces discussions, si dès qu'on arrive à quelque chose de concret et qui dérange Paris, ça n'aboutit pas.
Qu'est-ce qu'on lui répond alors, ici, Chantal Jeannot?
Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs, c'est un très bon exemple, parce qu'en fait, il y a eu de multiples processus de participation autour de Notre-Dame-des-Landes, hein, du premier débat public. Je sais plus, on avait recensé, nous, le nombre de processus de participation, mais vous en remplissez une page entière.
Ça a duré plusieurs dizaines d'années.
Et la difficulté est principale étant qu'au terme de ces processus de participation, personne ne décidait jamais. Et tout le monde se renvoyait la balle en disant, on va refaire un processus de participation, discréditant d'ailleurs au fur et à mesure l'ensemble de la démarche. Donc ça renvoie une fois de plus à cette exigence que le politique tranche, et c'est son rôle, et qu'il prenne des décisions. Si à l'époque de Notre-Dame-des-Landes, après les premières procédures de concertation, on avait tranché de manière claire, sans doute qu'on n'aurait pas atteint le niveau de conflictualité qui a entouré ce projet. Donc là, c'est la même chose. Mais là, je veux dire, la situation est tout à fait différente, puisque de toute façon, on est dans un contexte politique où c'est impossible de pas trancher. Donc, il y a peu de risque que le processus de participation qui est engagé, le grand débat national, n'aboutisse à aucune décision.
Une question encore tout de même pour vous, Chantal Jeannot. C'est Didier qui nous appelle de Toulon et qui visiblement connaît un peu le sujet des consultations locales. Bonsoir Didier.
bonsoir à vous.
Alors vous, faites partie d'un collectif, c'est ça?
Exactement, je suis président d'un collectif qui s'oppose à la ligne LGV Grande Vitesse PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un projet dont le débat public date de 2005. Mm-hmm. Donc j'ai participé à ce débat public en 2005 et le compte-rendu qui en a été fait par la CNDP, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui étaient opposés à ce projet. Il y a eu de grosses manifestations qui ont eu lieu et on se rend compte que malgré le temps qui passe et l'évolution politique qui nous amène maintenant avec les Gilets jaunes qui témoignent d'un énervement général, pour pas dire plus qu'un énervement, que les choses ne sont pas entendues. C'est-à-dire que les gens, ça fait 10 ans sur la LGV PACA, 10 ans, 15 ans, qui disent que ça coûte trop cher, qu'il faut arrêter ces grands projets. Et Notre-Dame-les-Landes a eu la chance d'être arrêtée. Mais par contre, ces grands projets, on les phase, on les saucissonne en morceaux. Et pour que le budget passe, et on dit que la première phase, c'est les gares de Marseille, de Nice. Et on endort les gens avec ces problèmes de débat public, c'est-à-dire qu'on les entend, mais ça passe pas l'épreuve de la réflexion et de remettre en cause les projets qui sont décidés en haut lieu.
Merci.
Pour le cas, on a eu deux interventions devant la justice pour demander un nouveau débat public sur la LGV PACA, parce que depuis 2005, les choses ont changé. Et bien la CNDP nous a refusé ce nouveau débat public et a défendu bec et ongle devant la justice, qui l'a écouté, que c'était pas la peine de faire des nouveaux débats. Donc on voit bien que quand les choses sont enclenchées et qu'il y a une vraie volonté politique de faire les choses, ben les débats publics enferment les gens, en fait. Ils vont s'exprimer.
Didier, on va laisser répondre Chantal Jeannot parce qu'il est déjà 19h52 et encore plein de monde au standard de France Inter ce soir. En tout cas, un grand merci de nous avoir appelé. Chantal Jeannot, les débats publics endorment-ils les gens?
Non, mais alors, il y a deux choses. La première, c'est que ce qu'a dit Didier, c'est que le débat public avait bien montré les choses. Il avait bien montré l'opposition au projet et que donc, c'est la preuve que dans les comptes rendus qu'on fait, on est assez clair et assez cash. La deuxième, alors sur l'autre décision de la CNDP, j'avoue ne pas pouvoir répondre parce que je n'étais pas là et donc je ne saurais vous dire le pourquoi. L'élément central, en fait, dans tous les grands projets, nous, ce qu'on observe, c'est que un dossier, un débat, un projet qui est conflictuel au début d'un débat public, le reste après. C'est-à-dire que c'est une idée fausse de penser qu'un débat public va endormir la population, créer du consensus et faire passer la pilule. Jamais ça ne s'est produit. Jamais.
Merci Chantal Jeannot. Frédéric de Pau est en ligne à son tour. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous. Moi, j'avoue que je suis plus que sceptique devant ce grand dialogue prévu. La société civile, par l'intermédiaire des Gilets jaunes et des ONG, a déjà posé des questions. Et M. Macron répond par une autre question. C'est la technique jésuitique bien habituelle. Alors, ce n'est pas à lui à poser les questions. C'est à nous à poser les questions. Les questions, elles sont claires. Les Gilets jaunes disent qu'il y a des inégalités monstrueuses et ne pourront pas supporter d'être, disons, gouverné par quelqu'un qui ne nous écoute pas et qui n'a été élu que par moins de 20% qui l'ont choisi délibérément. Et puis la société civile porte un autre projet, dire il y a une transition énergétique qui est une urgence absolue et dont M. Macron n'a pas dit un mot. Donc ce qu'il faut, ce sont des changements violents, importants. Et M. Macron, qui nous a habitués depuis un an et demi qu'il est là, à ne rien écouter, je ne vois pas comment il va écouter des questions qu'il choisira lui-même. Et donc des
non, il va pas choisir les questions lui-même. On va vous répondre, Frédéric. Un grand merci de nous avoir appelés. Moi, je me tourne quand même vers John Billard. C'est vrai que, notamment dans les mairies, les gens sont venus dire un certain nombre de choses et il y a des thèmes qu'on retrouve, hein, pouvoir d'achat, justice sociale, service public. On va pas non plus aller se poser la question sans s'étendre pour savoir ce que les gens pensent là-dessus. On le sait quand même globalement.
Oui, ça c'est clair. Alors après, il y a un arbitrage qui doit être fait, mais ça c'est plus de notre ressort, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est le ressort du politique. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans certaines propositions, voire revendications, elles s'opposent. Donc il y a un moment donné, il y a un arbitrage qui doit être fait. Et là, nous, on n'entre pas. Moi, je veux absolument insister sur le fait que, en tant que maire, dans cette situation, on a un rôle je vais insister sur la notion de médiateur. On est là pour que le peuple s'exprime. Donc à lui s'exprimer et à charge après aux politiques, et c'est ce qu'on appelle un choix politique. Nous aussi, dans nos communes, des fois, on fait des choix politiques qui sont de moindre importance, c'est vrai, mais pour le coup, il y a un choix qui doit être pris et c'est pas à nous de le dicter.
Chantal Joanneau.
Il y a deux éléments. Le premier, c'est que certes, c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a déjà porté un certain nombre de revendications. Mais là, le débat, c'est effectivement le débat de tous les Français. Il y a bien d'autres sujets qui seront abordés et qu'il est important qu'on réunisse dans des salles des personnes avec des opinions diverses qui se regardent dans les yeux, qui échangent entre elles, qui argumentent leur position. Et c'est vrai qu'il y a des divergences et c'est parfaitement normal. On est en démocratie. Le deuxième élément, c'est que le gouvernement a proposé 4 thèmes, mais tous les thèmes sont ouverts. C'est-à-dire qu'on peut débattre de tout autre sujet. Une personne évoquait l'Europe, on peut débattre de l'Europe. Et nous ferons remonter tous les autres thèmes et tous les autres propositions. On ne se limitera pas aux 4 thèmes.
Voilà, justement, Jean-Louis qui est maire d'un petit village. Vous êtes là, Jean-Louis ?
Oui, tout à fait.
Vous posiez la question, elle a répondu à votre question, hein, Chantal Joanneau, sur les différents thèmes ?
En partie, je voulais juste préciser, donc Jean-Louis Billon, je suis maire de Bouleret, dans le département du Cher. Je disais que l'exercice, en fin de compte, m'intéresse sans a priori, c'est-à-dire que moi je suis prêt à conduire ce débat-là avec les habitants, et je pense que les habitants sont intéressés aussi, puisqu'on a l'habitude d'échanger sur plusieurs sujets qui concernent notre commune, et donc je pense que ça sera une continuité. Les thématiques, effectivement, c'était une de mes questions, mais je viens d'entendre qu'effectivement c'est open, hein, comme on dit, voilà. Ma question était par contre sur les possibilités, est-ce que ça pourra s'organiser sur plusieurs réunions, dans quel délai et en fin de compte, quels seront les délais qui nous feront
bonne question.
Nous respecter. Voilà.
Oui. On se pose tous les questions des délais. Oui, et quand est-ce que
Le débat commence le 15 janvier dans sa partie organisation de débat. En fait, il a déjà commencé, et il se terminera vers le 15 mars.
Et voilà. Vous pensez faire la synthèse pour quand ?
On va nous travailler en continu sur le travail de restitution pour pouvoir faire la synthèse très rapidement au mois d'avril, parce que il est clair, on l'a très bien entendu chez toutes et tous, que les réponses doivent être rapides et que les personnes n'ont pas envie d'attendre des mois pour avoir des réponses. Donc nous, on fera un travail. Je pense qu'on pourra l'affiner ensuite au fur et à mesure pour le décliner de manière très territoriale, mais on rendra en tout cas nos premiers rapports au mois d'avril.
Il va falloir aller vite, Cyril. Surtout qu'il y a...
Et compris pour Emmanuel Macron.
Oui, surtout
vu les... Oui, mais c'est une exigence qui a été posée par celles et ceux qui ont demandé le débat.
Une petite question politique pour terminer, Cyril. Qu'en est-il de la cohésion de la majorité sur tout ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'il y a de vraies dissensions ou pas ?
Concernant le débat, il y a eu des débats, justement, sur ce grand débat en Conseil des ministres, notamment de la part de Bruno Le Maire, qui, lors d'un Conseil des ministres où a été annoncé le grand débat, a rappelé que lui avait vécu, à l'époque, le débat sur l'identité nationale.
Contre-exemple.
Vous aussi, Chantal Joanneau, vous l'avez vécu
Oui, j'étais pas directement sur ce débat, mais c'est le contre-exemple, effectivement, d'un débat totalement pilanté d'en haut, dans des grandes salles où on assène la bonne parole. On a d'ailleurs, il y a des vidéos qui ont été retransmises où on voit ce système d'estrade, de discours assez long, où ensuite on passe la parole à la salle. Et donc, ce sont des débats qui, par leur organisation physique, créent de la conflictualité au-delà même du sujet.
Et justement, donc c'était l'exemple à ne pas suivre, avait rappelé Bruno Le Maire lors de ce Conseil des ministres.
Chantal Joanneau, la question de l'immigration pourra être intégrée, et vu le précédent du débat sur l'identité nationale.
Le gouvernement a souhaité qu'elle soit intégrée dans le thème de la citoyenneté. Donc elle est intégrée dans cette partie.
On peut peut-être rappeler les 4 thèmes, non ?
On va les rappeler très rapidement parce qu'il est déjà 59, on en avait parlé tout à l'heure, je ne sais plus où.
Il y a le transition écologique, voilà. Fiscalité, organisation de l'État et démocratie et citoyenneté.
Voilà, moi je voudrais juste qu'en 10 secondes, chacun vous disiez votre priorité pour ce débat, pour que les choses réussissent. Chantal Joanneau.
Moi, ma priorité absolue, c'est de garantir la neutralité et l'indépendance dans son organisation. Et ça sera le cas, sinon je ne le ferai pas.
Pour que tout le monde ait confiance et participe, vous, John Billard, la priorité des priorités pour vous ?
La priorité, c'est justement de laisser la parole à tous. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est que chacun puisse s'exprimer librement.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Chantal Joanneau.
Merci.
Merci beaucoup John Billard et merci à vous Cyril Graziani du service politique de France Inter. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Jimmy Bourquin, June Lopère, à la réalisation Étienne Bertin, à la technique Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, Serge Viguier. Merci aussi aux standardistes de l'émission.